Vous allez écouter maintenant une conférence de carême donnée le jeudi 13 mars au couvent des Dominicains de Toulouse sur le thème « Le chemin de croix avec saint Thomas d'Aquin », une intervention du frère Emmanuel Perrier.
Nous allons consacrer cette conférence à suivre Thomas qui suit Jésus sur le chemin de la croix, sur le chemin de la passion. Alors, donc saint Thomas n'est pas un auteur spirituel au sens où c'est pas quelqu'un qui a écrit des livres de spiritualité. C'est d'abord un professeur, mais justement, comme professeur, il a eu à plusieurs reprises l'occasion de commenter la Passion. Et ce faisant, il s'est révélé être un auteur spirituel, mais pas au sens ordinaire. Un auteur spirituel, en fait, qu'on pourrait dire caché. Je veux dire qu'il se cache derrière un enseignement de professeur. Le maître spirituel est caché dans le docteur. Et pourquoi cela? Parce que Thomas, quand il enseigne ce qu'on appelle aujourd'hui la théologie, mais qui, à l'époque, s'appelle la maîtrise en sacrée théologie ou aussi la maîtrise en page sacrée. Et par page sacrée, on entend l'Écriture sainte. Parce que le premier travail du professeur, c'était de commenter l'Écriture sainte. Et en fait, dans le cursus ordinaire des frères dominicains, le professeur, tous les matins, commençait par un commentaire de l'Écriture. Chaque jour de cours, il y avait une heure de commentaire. Et donc, saint Thomas a commenté de nombreux livres de l'Écriture sainte, et notamment, il a commenté deux évangiles. Il a laissé un commentaire de saint Matthieu, et un commentaire de saint Jean. Le commentaire de saint Jean est plus tardif, vers la fin de sa vie. Le commentaire de saint Matthieu date du milieu de sa carrière, de sa courte carrière. Mais cela reste un commentaire tout à fait intéressant. Et je vais me concentrer sur celui-là. J'aurais pu prendre les deux ou prendre saint Jean ou se prendre saint Jean. Mais ce commentaire sur saint Matthieu est moins connu et je me suis dit que c'était une bonne occasion de voir un petit peu, de découvrir la manière dont Thomas commente l'Écriture sainte et notamment la Passion. Qu'est-ce que cela veut dire pour Thomas commenter la Passion? Eh bien, ça veut dire prendre le texte et puis l'expliquer à ses étudiants. Donc, de ce point de vue, c'est le professeur qui parle. C'est le professeur. Oui, mais pour saint Thomas, l'Écriture sainte n'est rien d'autre que Dieu qui enseigne. C'est en effet par l'Écriture sainte que Dieu nous instruit, nous transmet un enseignement sur des mystères cachés, les mystères divins, de sorte que commenter l'Écriture sainte, expliquer l'Écriture sainte, c'est expliquer l'enseignement de Dieu. Et donc, pour Thomas, le commentaire de l'Écriture sainte, c'est se mettre à l'écoute de ce que Dieu veut nous enseigner. Autrement dit, il conçoit son travail comme une manière de se disposer, de se rapprocher et d'ouvrir ses oreilles pour entrer dans cette intelligence de l'enseignement divin. Alors vous voyez certainement où je veux en venir, c'est que certes, saint Thomas ne se présente pas comme un auteur spirituel, c'est-à-dire qu'il va faire des grands développements sur la passion. Il n'a pas écrit de grands livres dans lesquels il aurait pu développer beaucoup de thèmes sur la passion. Mais il ne l'a pas fait En revanche, sa manière de nous guider dans l'intelligence de l'enseignement de Dieu est une manière de nous introduire à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, de ce point de vue, c'est bien un enseignement spirituel, puisqu'il nous permet de mieux rentrer, de mieux goûter cette parole de Dieu. Je vous ai mis ce petit texte pour commencer de son introduction au commentaire sur Matthieu. C'est surtout dans l'Évangile que nous est transmise la substance de la foi catholique, et par substance de la foi catholique, c'est-à-dire le cœur de ce qu'il faut croire, et la règle de toute vie chrétienne, c'est-à-dire ce qui va, quand on le met en pratique, transformer notre vie en vie chrétienne. Donc, dans ce qui suit, nous allons nous concentrer sur ce passage, ce commentaire de la Passion, dans lequel, en fait, Thomas va suivre Jésus, tel que Matthieu nous le rapporte, depuis son arrestation jusqu'à sa sépulture. Et un des points que Thomas a remarqué, mais il n'est pas du tout le seul, c'est une vision traditionnelle, c'est que l'évangile de Matthieu est très attentif à l'humanité du Christ, au mystère de l'humanité du Christ. Et donc, notre regard va être un peu focalisé sur ce qui arrive à cette humanité. Mais il en parle comme d'un mystère, un mystère de l'humanité du Christ, et il nous faut d'abord comprendre ce que Thomas entend par se regarder l'humanité du Christ comme un mystère. Donc on va commencer par un petit peu une partie préliminaire pour comprendre ce que nous avons à regarder pour faire ce trajet spirituel. Et pour cela, je voudrais placer deux grands principes qui vont, en fait, nous éclairer pour la suite de notre méditation ou de notre lecture ou de notre suite de Thomas suivant le Christ. Le premier grand principe, quand on lit la Passion, c'est que Dieu a tout disposé. Dieu a, d'une part, enseigné dans l'Ancien Testament au peuple d'Israël tout ce qui allait s'accomplir dans l'humanité du Christ, par cette humanité. Et d'autre part, dans le cours des événements de la Passion, Dieu dispose aussi tout le cours de ces événements. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, premièrement, puisque Dieu dispose tout ce qui se passe, tout a un sens. Tout peut être interprété comme étant ce que Dieu a disposé pour nous signifier quelque chose. Oui. Donc, quand on lit l'Évangile, et ici la Passion, tous les détails ont une certaine valeur d'enseignement. Comment est-ce qu'on trouve cette valeur d'enseignement? Eh bien, c'est là où on fait jouer l'autre partie de ce principe, qui est que Dieu a disposé des prophètes, des écrivains sacrés, l'Ancien Testament, pour nous éclairer, nous apporter des figures, des modèles, des préfigurations que le Christ va précisément rendre actuelles. Et donc, nous allons nous attacher aux détails, aux petites précisions que l'Écriture sainte contient, et parce que tout a du sens, et d'autre part, nous allons les éclairer, ces petits détails, par les images, les modèles qui sont contenus dans l'Ancienne Alliance. Donc ça, c'est un premier principe qui est très important à comprendre. Et je vous ai mis ce texte de Thomas, « Les réalités qui dépendent de la seule volonté de Dieu et auxquels la créature n'a aucun droit, ne nous sont connues que dans la mesure où elles nous sont livrées dans l'Écriture sainte, par laquelle la volonté divine se fit connaître à nous. Donc, c'est en scrutant l'Écriture sainte qu'on trouve les raisons, la manière dont il faut entendre, comprendre ce qui se passe. Deuxième principe, c'est celui que l'on peut appeler de la passion volontaire. Dans cette expression de passion volontaire, expression traditionnelle, qu'on trouve chez les pères de l'Église, qu'on trouve dans toute l'histoire chrétienne, cette expression passion volontaire, apparemment, elle est contradictoire. Parce que, en effet, pâtir, c'est subir quelque chose. Et donc, c'est subir, apparemment, en tout cas, contre sa volonté. Oui. Il y a, quand spécialement on pâtit des choses qui sont douloureuses, ce sont des choses qu'on ne peut pas vouloir. Oui. Et cependant, le Christ s'est avancé dans sa passion de manière volontaire. C'est ce que l'on voit, en fait, tout au long de la passion. Le Christ est un agent qui s'avance vers sa passion et qui va vivre tous les événements de sa passion en le voulant. Comment est-ce qu'on arrive à rendre compatibles ces deux aspects ? À la fois, il veut, et cependant, tout ce qui se passe dans la passion, il le subit. Eh bien, c'est simplement que, certes, tout ce qu'il subit, il le subit par d'autres, mais il veut le subir parce que c'est le moyen par lequel il veut nous sauver. On va en voir un exemple juste après. Mais je voudrais ici souligner ce qui se joue du point de vue de cette volonté du Christ, intérieurement. Qu'est-ce que nous pouvons connaître de cette volonté intérieure du Christ ? Alors, ici, je vais citer ce grand texte de Thomas qui part de l'affirmation du Concile de Chalcédoine, selon lequel, dans le Christ, il y a dans sa personne, c'est la personne du Fils de Dieu, donc qui est de nature divine, mais qui a pris sur lui notre nature humaine. De sorte qu'il n'y a qu'une personne, mais il y a dans le Christ deux natures, la nature divine, la nature humaine. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'il y a dans le Christ la sagesse divine, mais aussi une intelligence humaine. Et cela veut dire qu'il y a dans le Christ la volonté divine, mais aussi une volonté humaine. Et cela veut dire encore qu'il y a dans le Christ une action divine et en même temps une action humaine. Comment est-ce que ces deux sagesses ou connaissances, ces deux volontés, ces deux actions s'articulent entre elles? Voyons le texte. Dans le Christ, l'humanité se présente à la manière d'un instrument de la divinité. Or, il est clair qu'un instrument agit dans la vertu, dans la force, de l'agent principal. De sorte que, dans l'action de l'instrument, on ne trouve pas seulement la vertu de l'instrument, mais aussi celle de l'agent principal. Prenons un exemple. C'est par l'action de la scie que l'on fabrique un placard. Mais c'est par l'action de la scie, non pas en tant qu'elle se bouge toute seule, mais en tant que la scie est dirigée par l'artisan. L'artisan est l'agent principal et la scie est son instrument pour fabriquer le placard. Et donc, dans la fabrication du placard, on a deux agents qui agissent ensemble, l'un dans l'autre, la scie qui produit son effet et l'artisan qui se sert de la scie pour produire le placard. Et donc Thomas dit, dans le Christ, c'est quelque chose d'analogue qui se produit. Il y a son agir humain, et dans cet agir humain, c'est l'agir divin qui guide et qui se sert de l'agir humain pour faire ce qu'il veut faire. Je continue la suite du texte. De même donc, l'opération de la nature humaine dans le Christ possédait, venant de la divinité, une certaine force qui dépassait la vertu humaine. Et il prend l'exemple de la guérison du lépreux. Que le Christ touchât un lépreux, touché, c'est avec un corps humain, c'est une action humaine, c'était l'action de l'humanité. Mais que ce toucher guérit de la lèpre, cela provenait de la vertu de la divinité. Et c'est de cette manière que toutes les actions et passions humaines du Christ eurent un effet salutaire par la vertu de la divinité. Et j'ai souligné passion, parce que ce qui vaut pour l'action vaut aussi pour tout ce que le Christ a subi ou pâti. Qu'est-ce qui se passe quand le Christ subit quelque chose ? Prenons l'exemple de la flagellation. Des soldats flagellent le corps du Christ et le corps du Christ est donc meurtri par cette action des soldats. Et dans sa volonté humaine, le Christ veut subir cette flagellation pour notre salut. Et dans sa volonté divine, le Fils de Dieu veut aussi vivre cette éprouver cette douleur, parce que c'est dans cette flagellation qu'il va nous apporter un effet de salut. Prenons un autre exemple. Le cas du blâme de Pierre qui s'oppose à l'arrestation. Pourquoi le Christ blâme-t-il Pierre ? En effet, le Christ a demandé aux disciples d'emporter des armes avec lui au moment où ils sont sortis du cénacle pour aller vers le jardin des Oliviers. Voici la réponse de Thomas. On peut regarder ce blâme de Pierre selon trois raisons. Première raison, le premier principe que j'ai dit plus haut, la disposition divine. Voici ce que dit Thomas. Eh bien, Jésus blâme Pierre parce que les Écritures ont dit qu'il ne fallait pas chercher s'opposer à l'arrestation. Et c'est pourquoi il faut que cela arrive. Oui, Dieu a disposé que le Christ serait arrêté. Ainsi, le Christ avait-il dit, le Christ dira plutôt aux disciples d'Emmaüs, ne fallait-il pas que le Christ pâtît afin qu'il entre dans sa gloire. Donc, la première chose, la disposition divine, le Christ voulait être arrêté, et donc il allait au-devant de cette arrestation. Deuxièmement, le Christ voulait montrer qu'il allait subir l'arrestation volontairement, c'est-à-dire que, en ayant apporté des armes, il montrait qu'il avait le moyen de se défendre humainement, et cependant, il a refusé l'usage de ses armes pour montrer précisément qu'il voulait se laisser arrêter. Et c'est à ce moment-là, vous vous rappelez, que Jésus dit à Pierre, « Mais range l'arme dans ton fourreau, si je voulais être défendu, j'aurais une légion d'anges qui serait là pour me libérer. » Et puis, troisième enseignement que saint Thomas tire de cette arrestation à laquelle Jésus se soumet, voici ce que dit Thomas, « Il est venu pour pâtir volontairement, et c'est pourquoi il ne voulait pas être défendu, et en ceci, il a donné un exemple afin que les martyrs qui pâtissent pour le Christ ne se défendent pas. Et voyez que, ici, qu'est-ce que c'est que cet exemple que le Christ donne ? Ce n'est pas simplement un modèle abstrait. C'est que, selon ce que nous avons dit, le Christ, en voulant être arrêté, son opération divine agit dans son opération humaine, de telle sorte que, pour le chrétien qui vit la même chose, c'est la force du Christ qui vit en lui. De même que dans le Christ qui vit cette arrestation selon sa volonté humaine unie à sa volonté divine, de même le Christ sera présent auprès des martyrs qui ne se défendront pas pour leur apporter la force lorsqu'ils seront arrêtés au nom du Christ. Et c'est ça ce qu'on appelle l'exemplarité du Christ. Le Christ est exemplaire par par tout ce qu'il vit dans sa passion. Et donc, je reviens à mon thème initial, je pense que nous comprenons mieux maintenant en quoi ce que le Christ vit dans sa passion, Thomas l'appelle un mystère. Oui ? C'est-à-dire que tout ce que nous voyons qui s'accomplit dans son humanité, ce n'est pas simplement dans cette humanité que ça s'accomplit, parce que le Christ veut le vivre pour causer en nous, pour produire en nous un effet de salut, un effet divin de salut. Il subit dans son humanité, et tout ce qu'il subit dans son humanité, il veut le vivre pour que sa puissance divine se répande sur les hommes. Je vous ai mis un petit texte sur la passion comme manifestation des mystères. C'est dans tout ce commentaire sur la passion, au moment, vous savez, à la fin, ça fait partie des signes qui accompagnent la mort du Christ, il y a le rideau du temple qui se déchire. Et voici ce que saint Thomas dit sur ce rideau du temple. Donc sur Matthieu 27, 51, voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Je cite Thomas. « Dans le temple, il y avait un double voile, comme dans la tente de la rencontre dont il est parlé en Exode 26. Car il y avait un voile à l'intérieur, dans le sanctuaire lui-même, du Saint des Saints, et il y avait un autre voile qui était à l'extérieur et qui n'était pas dans le Saint des Saints. Et ces deux voiles symbolisaient une double occultation. Car le voile intérieur signifiait l'occultation des mystères célestes qui nous seront révélés, sous-entendu, au dernier jour, à la fin des temps, dans la gloire. Alors, continue Thomas, en effet, nous lui serons semblables lorsque sa gloire apparaîtra. Donc ça, ce sont les mystères les plus cachés de Dieu qui ne sont visibles qu'à ceux qui sont entrés dans la vie avec Dieu. L'autre voile, qui était à l'extérieur, signifiait l'occultation des mystères qui se rapportent à l'Église. C'est donc ce second voile qui fut déchiré. Pas le premier, pas celui du Saint des Saints, des mystères de Dieu dans son éternité, mais ces mystères qui se rapportent à l'Église, pour symboliser que des mystères ont été manifestés par la mort du Christ, ceux se rapportant à l'Église. Le premier voile, celui du Saint des Saints, en revanche, n'a pas été déchiré, car les secrets célestes demeurent voilés jusqu'à maintenant. Alors, maintenant que nous avons un petit peu la clé de compréhension de la lecture de Thomas, comment il entre, comment, quand il se met à commenter la passion, il entre en réalité dans ces mystères de l'humanité du Christ, et il cherche à entrer dans la connaissance de ces mystères de l'humanité du Christ, nous pouvons voir comment est-ce que Thomas va procéder. Eh bien, la première chose qu'il va faire, c'est de regarder les différentes parties de la Passion. Comment est-ce que Matthieu nous présente la Passion? Quel enseignement se trouve dans ce récit, dans la structure même de ce récit? Si nous regardons chacune de ces parties, nous voyons que ce qu'il subit des Juifs, c'est d'abord l'arrestation, puis l'interrogatoire et une condamnation. Il est alors livré aux gentils, et on passe à la deuxième partie. Il est livré aux gentils, et là est insérée dedans la mort de Judas. Il est à nouveau interrogé et définitivement condamné. Puis, nous passons à la passion et à la mort. Et là, nous voyons que chez saint Matthieu, il y a, en tout cas c'est ce que Thomas remarque, il y a un balancement entre ce qu'il subit, ce qu'il a enduré indûment, dit Thomas, et des signes grandioses qui se produisent en même temps ou au moment où il les endure. Donc, tout d'abord, ce qu'il a enduré indûment, la dérision par les soldats, la crucifixion et la dérision par les Juifs. Et remarquez que, en fait, là, il y a une dérision par les gentils, d'abord, une crucifixion, et sur la croix, une dérision par les Juifs. Et puis, deuxième partie, il y a des signes qui se manifestent, des signes qui montrent ce qui se passe. Et ces signes grandioses sont, avant la mort, il y a l'éclipse et le dernier cri du Christ. Et puis, après la mort, il y a la mort elle-même, qui est tout à fait inhabituelle. Il y a la stupeur que produit, l'effroi que produit sur ceux qui assistent cette mort. Et enfin, il y a des miracles qui se produisent, donc essentiellement le tremblement de terre et cette résurrection des tombeaux qui se produit à ce moment-là. Alors, le simple fait de mettre en évidence cette structure, vous voyez qu'elle fait ressortir deux grands thèmes de la Passion. Elle fait ressortir que la Passion associe à la fois juifs et gentils, comme si c'était deux catégories de l'humanité qui tout d'un coup se venaient se retrouver et se rejoindre et s'associer pour conduire le Christ à la mort. Et ça, c'est très important. Toute l'humanité dans ces deux catégories de personnes, toute l'humanité est représentée comme étant responsable de la mort du Christ. Et puis, un deuxième grand thème, c'est que il y a un balancement entre les humiliations, les passions que le Christ subit et des signes qui viennent nous indiquer que ce qu'il subit n'est pas ordinaire, que dans ce qu'il subit, Dieu est en train de produire quelque chose. Donc, on a vu précédemment, que ce sont des mystères, et ce sont des mystères, précisément, on le voit, on le constate, parce que on se trouve face à une humanité qui, selon toutes les apparences, subit simplement des avanies les unes après les autres, mais qu'en même temps, nous sont présentés des faits qui montrent que ce qu'il vit n'est pas ordinaire et qu'il est en train d'accomplir quelque chose dans sa passion. Alors, je propose, dans le temps qui me reste, de regarder, de passer en revue quelques passages qui vont nous permettre de rentrer. Alors, évidemment, on ne peut pas suivre le Christ dans toutes les étapes de sa passion, et le commentaire de saint Thomas est assez long, mais au moins, on peut essayer de rentrer un petit peu dans cette contemplation que Thomas nous propose. Et voyez, contemplation qui, dans laquelle Thomas ne s'interpose pas. Hein, il n'est pas en train de vous dire « voilà ce que je crois, voilà ce qu'il faudrait voir, voilà, etc. » Non, il essaye de nous rendre accessible, de nous rendre perceptible ce mystère qui nous est révélé dans les Saintes Écritures, cet enseignement de Dieu qui nous apparaît dans la Passion. Tout d'abord, dans la partie sur ce que le Christ subit des Juifs, je ne vais pas m'attarder sur des textes, mais je voudrais juste évoquer deux passages, parce qu'ils ont un rôle important. Tout d'abord, la trahison de Judas. Thomas s'attarde sur la trahison de Judas, parce que finalement, c'est quand même par ça que la Passion commence. C'est la première douleur que le Christ a à subir. Alors, vous pourrez dire, il y a l'agonie, hein, d'abord, mais la première douleur qu'il subit de la part des hommes, hein, qui lui vient de l'extérieur. Or, il n'est pas anecdotique que cette première douleur lui ait été infligée par l'un des siens, par celui qu'il avait choisi, qu'il avait gardé auprès de lui pendant 3 années, et qui, au bout de ces 3 ans avec le Christ, vient le trahir. Thomas souligne qu'il y a dans cette trahison, encore une fois, parce que rien n'est sans signification, il y a dans cette trahison une exemplarité. C'est l'exemplarité des mauvais ministres de l'Église. Puisque Thomas remarque que parmi les 12, il y avait 2 Judas, l'un qui fut un bon apôtre et l'autre qui fut mauvais. Et là, dit Thomas, il signifiait ainsi que dans l'Église future, certains confesseront le Christ en bien et d'autres en mal. De même, il remarque que le Christ avait, que Judas avait la dignité d'apôtre. Et qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire que dans l'Église, nul ne doit se confier dans son état. Même un apôtre pouvait trahir le Christ. Et, ajoute Thomas, ceci donne un exemple aux prélats. Hein, les prélats sont dans des positions et appelés à des hautes positions. Eh bien, ça n'est en rien une garantie qu'ils seront des bons ministres du Christ et qu'ils seront fidèles. Troisième remarque que Thomas fait, c'est que Judas vient accompagné d'une bande armée. Et il remarque que finalement cela reflète bien l'âme endurcie de Judas. Judas s'associe à des gens armés. L'âme dure s'entoure de ceux qui lui ressemblent. Et Thomas remarque aussi qu'ils viennent en nombre. Et il dit, il faut se méfier de la foule, parce que la foule, c'est là où il y a des passions, et les passions qui font perdre la raison. Et il ajoute, et eux-mêmes étaient effectivement stupides, puisqu'ils s'opposaient à celui qui est la sagesse. Et ils étaient armés parce qu'ils vivaient dans la crainte. Mais ce qui va frapper le plus saint Thomas, c'est le baiser de l'amitié qui sert à trahir. Il cite à ce sujet Proverbe 27,6 « Meilleures sont les blessures d'un ami que les baisers trompeurs de l'ennemi. » Et il évoque aussi l'épisode de Joab qui embrasse Amasa et qui, en l'embrassant, l'éventre. C'est en 2 Samuel 20. Et ce qui est le plus touchant, donc on sent qu'il y a ici cette émotion dont est empreinte cet épisode, et qui culmine dans l'interrogation, la question de Jésus. « Ami, qu'es-tu venu faire ?» ami, qu'es-tu venu faire ? Et dans le latin, qui est la langue dans laquelle Thomas étudie la Sainte Écriture, cette phrase peut avoir un double sens. Soit interrogatif par reproche. Hein, ami, qu'es-tu venu faire ? Voilà ce qui m'arrive. Hein. Autrement dit, tu me montres de l'amitié par un baiser alors que tu es venu me perdre. Et Thomas cite ici le psaume 27:3. Ils parlent de paix dans leur bouche, mais dans leur cœur, c'est le mal. Il évoque aussi ce que le Christ avait utilisé la même formule dans la parabole des invités au repas de noces, où celui qui, vous savez, qui était invité, qui était rentré dans le festin, au festin, se retrouve sans habit de noces, et le maître de cérémonie lui vient le voir et lui dit « Ami, comment es-tu entré en n'ayant pas l'habit de noces ?» Il y a aussi une autre lecture, donc ici c'est la lecture de réprobation de Judas. Et il y a une autre lecture, une lecture au contraire qui atténue la douleur de cette trahison. « Ami, qu'est-ce que tu es venu faire là ?» Jean 13:5, « Ce que tu fais, fais-le vite », avait dit déjà Jésus à Judas. Et il l'appelle « ami » parce que lui-même demeure inébranlable dans l'amour qu'il a pour Judas. Même si Judas, lui, le trahit, lui, en revanche, continue de l'aimer. Donc, vous voyez, cette première passion est en fait terrible parce que elle vient de l'intérieur même de du groupe que Jésus avait assemblé autour de lui. Vient ensuite la deuxième épisode, celui de l'interrogatoire par le grand prêtre Caïphe. Je ne vais pas non plus trop m'attarder, mais je voudrais juste souligner que dans cet épisode, saint Thomas voit une tension qui monte progressivement. Il relève plus exactement une tension qui monte progressivement. On cherche d'abord à trouver des témoins pour condamner Jésus. On n'en trouve pas. Alors on se rabat sur des faux témoins. Mais les faux témoins se mettent à se contredire. Et en définitive, la tension monte tellement que c'est le grand prêtre, Caïphe lui-même, qui va s'emparer de la situation et qui va se mettre à accuser Jésus. Et qui va être comme tiré hors de lui-même jusqu'à être placé face à la négation du Christ. Un refus de la foi au Christ. Et on voit comment Thomas souligne cette montée vers l'incrédulité, cette montée vers l'endurcissement du cœur, dans lequel celui qui se présentait comme un juge apparemment indépendant et jugeant en équité, finit par déchirer ses vêtements et par ses paroles, refuser de reconnaître, de croire au Christ. Et d'autant plus que le Christ lui répond en lui citant l'Écriture. Il ne dit pas « Je suis le Fils de Dieu ». Et là, Caïphe aurait pu dire « Mais qui es-tu pour le dire ?» Non, Jésus cite la parole de Dieu que Caïphe devrait connaître et qui aurait dû normalement le conduire à confesser Jésus. Et Caïphe repousse, rejette cela. Je passe aussi sur l'épisode de l'interrogatoire par les gentils, donc il est conduit au prétoire, il est interrogé par Pilate, il est condamné, comme on sait, et j'en viens à cette partie de la passion et de la mort. Dans cette partie, d'abord, regardons donc ce qu'il subit indûment, et ici, je vous ai mis le commentaire de Thomas sur la dérision par les soldats. Il faut noter que, bien qu'il l'ait accusé de nombreux faits, cependant, le Seigneur n'a pas pâti pour un autre motif que celui de s'être dit « roi ». C'est pourquoi, voulant s'en moquer, ils lui ont imposé les insignes du roi. Et donc Thomas va commenter les trois insignes que l'on donne au Christ pour s'en moquer. Tout d'abord, la robe pourpre, la chlamyde. En ceci, je le cite ici, « En ceci qu'il a été dépouillé de ses propres vêtements et revêtu d'autres, eh bien ce sont les hérétiques qui sont réfutés, c'est-à-dire ceux qui se trompent sur la foi, ceux qui racontent des erreurs sur la foi, et des horreurs aussi d'ailleurs, mais c'est des erreurs d'abord. Car ils ont dit, ces hérétiques, que Jésus n'était pas vraiment homme. Or, cette chlamyde rouge, ce vêtement pourpre, peut symboliser la chair du Christ ensanglantée par son propre sang. Isaïe 53,5 « Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. » Cela peut aussi renvoyer au sang des martyrs qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, ou encore au péché des gentils. Alors, vous voyez ici, on voit que Thomas, en fait, utilise les trois principes qu'on a vus précédemment, hein, c'est-à-dire que, à la fois, cette humanité qui sert d'instrument à notre salut, donc il est très important de la défendre, cette humanité qui sert d'instrument à notre salut. Deuxièmement, l'exemplarité, tout ce qu'il vit dans son humanité, c'est pour nous, de sorte que les martyrs ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, c'est précisément ce sang qui va tacher cette robe pourpre. Et puis, troisièmement, le péché des gentils, c'est-à-dire, puisque ce sont les soldats hein, qui, ici, l'accablent, eh bien, ce péché des gentils, c'est-à-dire notre péché, les soldats nous représentent en frappant Jésus. Nous sommes, de quelque manière, présents dans cet épisode, parce que nos péchés, en fait, sont la source de ce que le sang du Christ coule et fait sa tunique, rend sa tunique rouge. Deuxième attribut de sa royauté, qu'est-ce qui fait la royauté de Jésus à ce moment-là, c'est la couronne d'épines. Pour toute couronne de gloire, dit Thomas, ils lui ont imposé la couronne de l'outrage. Isaïe 22,18, couronnez-le d'une couronne d'épreuve. Et ici, en fait, Thomas mêle Isaïe 22,18 à Isaïe 28,5. Et oui, c'était quelque chose que j'ai noté en préparant. Je pense que cette citation, enfin, il n'est pas impossible que cette référence à Isaïe lui vienne de la messe votive de la Sainte Couronne d'Épines que l'on célébrait le vendredi après les cendres en France et qui a été instaurée à l'époque où Thomas vivait à Paris, puisque la Sainte Couronne a été, vous savez, achetée à grand prix par Saint-Louis, oui, Louis IX, et qui a fait bâtir la Sainte-Chapelle pour cela. Et donc, il est fort possible que cette citation, en fait, donc le texte « Couronnez-le d'une couronne d'épreuves », un des chants de la messe de la Sainte Couronne d'Épines dit « La couronne d'épreuves a fleuri en couronne de gloire ». Vous voyez, dans cette citation, « Corona tribulationis et floruit in coronam gloriae ». Thomas continue. « Par ces épines sont symbolisés les aiguillons des pécheurs par lesquels sa conscience fut blessée. Et le Christ les a reçus pour nous, car c'est pour nos péchés qu'il est mort. On peut ainsi penser à la malédiction d'Adam, « Le sol te donnera épines et chardons ». Était ainsi signifié que cette malédiction était rompue. Vous voyez ? Alors ici, on est typiquement face à ce mystère de l'humanité du Christ tel que Thomas l'a défini précédemment. Hein ? On a ce détail d'une couronne d'épines qui est donné au titre d'une couronne de gloire, d'une couronne royale, et le Christ va effectivement en faire une couronne royale, puisque c'est en la recevant, comme recevant nos péchés sur sa tête à lui, et détruisant nos péchés, nous libérant de nos péchés, que nos péchés deviennent, en quelque sorte, son titre de gloire. Le trophée de sa victoire, ce sont nos péchés qui ont blessé sa tête. Et donc, cette couronne, elle devient une couronne de gloire parce que c'est bien Dieu qui agit dans cette passion qui vient de la couronne d'épines et que le Christ veut subir pour nous sauver de nos péchés. Troisième attribut royal, le sceptre de roseau. Je passe à la crucifixion. Et à nouveau, je vais m'attarder sur un détail, celui de la boisson mêlée de fiel qui est donnée à boire au Christ. C'est donc sur Matthieu 27, 34. Je lis le texte. « Ils voulurent, dit Thomas, que tous ses sens pâtissent. La vue avait pâti par les crachats et par l'insomnie. L'ouïe par les blasphèmes et les paroles de moquerie. Le toucher, car il avait été flagellé. C'est pourquoi ils voulurent que le goût souffrit aussi. » Ainsi s'achevait ce qui est dit au psaume 68, 22. « Dans ma faim, ils m'ont donné du fiel, dans ma soif, m'ont fait boire du vinaigre. » De même, Jérémie 2, 21, « J'avais fait de toi une vigne de raisin vermeil, tout entière d'un cépage de qualité. Comment t'es-tu changé pour moi en vigne méconnaissable et sauvage ?» du verjus, du vin aigre. Surgit alors cette question, dit Thomas. Marc, au chapitre 15, tient qu'ils lui ont donné du vin mêlé de myrrhe. Il faut dire que la myrrhe est très amère et que le vin mêlé de fiel est lui aussi amer. Mais l'habitude est d'utiliser fiel pour tout ce qui est amer. Ainsi, selon la vérité, selon ce qui était ses produits, le vin était avec de la myrrhe. Et cependant, on dit qu'il ressemblait au fiel, et par ceci était signifié qu'il a porté l'amertume de nos péchés. Alors voyez ici comment se construit ce texte. Eh bien, on part de on regarde ce que le Christ pâtit, et on constate que c'est ce goût, ça passe par le goût, et que la passion va rentrer dans le Christ, donc puisque par le goût, son âme elle-même va pâtir, va subir une amertume, hein, et que l'amertume qui est dans le goût va susciter l'amertume pour nos péchés. Et que cette amertume, le Christ veut la prendre sur lui pour précisément nous libérer de l'amertume de nos péchés. Et à l'appui de cela, on prend des citations de l'Écriture sainte qui prédisent, qui annoncent ce qui va se produire. Après cela, il est évoqué comment il l'a reçu. Je continue le texte de Thomas. Après cela, est évoqué comment il l'a reçu en disant que, l'ayant goûté, il ne voulut pas en boire. Pourquoi Marc a-t-il dit qu'il en prit, alors que ici Matthieu dit qu'il y a seulement goûté? On pourrait répondre qu'il n'en a pris que pour y goûter. Et, vous voyez, en fait, pourquoi se poser cette question? Ben oui, il y a les deux évangiles, comment est-ce qu'on accorde, etc. Mais en fait, Thomas en tire une leçon. Et ceci a valeur de symbole. Car il a goûté la mort. Il a en effet promptement ressuscité et il a à peine été vu mort car il était libre parmi les morts, comme le dit le psaume 87. Donc vous voyez, dans cet interstice entre ces deux évangiles qui nous disent il y goûte, il y goûte pas, il en boit pas, donc ici, il y a la place pour ce moment bref dans lequel il goûte au vin mêlé de fiel ou de myrrhe, et qui signifie, qui symbolise la brièveté de sa mort. Pourquoi ? Parce que on va le voir plus loin, même dans la mort, il est resté libre et volontaire. Je vais vous laisser lire les raisons du choix de la mort qui suivent. J'en viens à ce qui se passe après la crucifixion, qui est donc la dérision par les Juifs. Donc il a été méprisé et raillé par les soldats, puis crucifié, et après cela, vient la dérision par les Juifs. Sur Matthieu 27, 42, 43. Et là, Thomas commente le passage de ces invectives qui viennent des chefs des prêtres. Il en a sauvé d'autres, et il ne peut se sauver lui-même. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Si je cite Thomas, il voulait dire, s'il en avait sauvé d'autres, il pourrait se sauver. Mais s'il ne peut pas se sauver, ça veut dire que... Mais qu'il ne puisse pas se sauver montre, en fait, qu'il n'en a pas sauvé d'autres. Donc ici, autrement dit, sa supercherie est dévoilée. Mais nous, dit Thomas, nous, au contraire, nous devons rétorquer. Il en a sauvé d'autres, et donc il peut se sauver. Et s'il a pu se sauver en ressuscitant, alors il pourra nous sauver. Donc, vous voyez, pour celui qui ne croit pas, ce moment sur la croix est le moment où il s'endurcit en ne voulant pas croire. Au contraire, pour nous, ce moment sur la croix, c'est celui où nous regardons le Christ en disant, lui qui va ressusciter, c'est donc qu'il peut, si lui va ressusciter, il peut, lui, me ressusciter. Ainsi, Thomas cite Hébreux 5,9, « Conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. » Où l'on voit que ceux qui l'insultaient ne visaient rien d'autre qu'un salut temporel, hein, ils s'attendaient à ce qu'il descende de la croix comme si de rien n'était, tandis que le Christ voulait montrer que le salut éternel est à préférer. Je passe maintenant aux signes grandioses. Donc on a vu les passions hein, qu'il subit, et maintenant le contrepoint, hein, face à ces passions, au contraire, les événements grandioses, dit Thomas, qu'il appelle les signes grandioses, qui viennent éclairer ce que nous venons de dire sur ces passions. Et tout d'abord, la mort, sur Matthieu 27, 51. La cause de sa mort fut triple. Une première cause fut de montrer combien il nous a aimés. Augustin dit, « Il n'y a pas de meilleure raison de l'amour que de prendre les devants en aimant. » Et Romains 5, 8, « La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions pécheurs. » Le Christ a pris les devants. Et donc, ici, on voit une manifestation de son plus grand amour, qui est dans le fait qu'il n'y avait aucune raison qu'il meure pour nous, et donc, s'il le fait, c'est donc qu'il nous a aimés le premier. La deuxième était de nous enseigner à ne pas craindre la mort. Toujours l'exemplarité, vous voyez, hein, tout ce que le Christ vit dans sa chair, c'est pour une exemplarité pour nous, et une exemplarité pas simplement un beau modèle de figure d'Épinal, d'image d'Épinal, mais vraiment pour nous donner sa grâce au moment même où nous vivons ce genre d'événement. Ici, donc, nous enseigner à ne pas craindre la mort. Par la mort, le Christ a détruit tous les péchés, et il a ôté la peine du péché d'Adam, afin ainsi de libérer du péché d'Adam. C'est en effet à Adam qu'il avait été dit, « À l'heure où vous mangerez, vous mourrez. » Et c'est de cette mort dont il nous a libérés. Et donc, cette mort qui venait du péché, nous n'avons plus à la craindre, puisque désormais, le Christ l'a portée et l'a brisée. Troisième raison, troisième cause, fut que le diable, qui est l'instigateur de la mort, avait assailli le Christ, lui qui ne l'avait pas mérité, et le diable en a perdu son pouvoir sur les autres. Et c'est pourquoi il a conduit son âme, excusez-moi pour la faute de frappe, son âme à la mort pour nous libérer de la nôtre. Donc il conduit à la mort pour briser le pouvoir du diable qui avait conduit à la mort. Si l'on regarde maintenant les conditions dans lesquelles cette mort est survenue, on voit qu'il a crié d'une voix forte, et criant d'une voix forte, il remit son esprit. Alors, commentaire de Thomas. Certains ont dit que la divinité était morte. À vrai dire, des théologiens au XIXe et XXe siècle, ça fait partie de leur théologie. Mais cela est faux, car la vie ne peut pas mourir. Or Dieu est non seulement vivant, mais aussi la vie elle-même. Donc celui qui est la vie ne peut pas mourir. Et c'est la grande objection. En fait, cette phrase, elle est très forte parce que quand on voit tous les théologiens du XIXe et du XXe siècle, les théologiens de la mort de Dieu, les théologiens de ceux qui intègrent la tension de la mort l'abaissement de la mort à l'intérieur même du mystère de Dieu et qui pensent servir le christianisme, Thomas leur dit, mais vous n'avez pas compris ce que c'est que pour Dieu être la vie. Dieu n'est pas simplement un vivant, il est la vie, c'est-à-dire la mort est ce qui est le plus extérieur, il n'y a aucune place pour une négativité dans la vie qui est Dieu lui-même. Je passe au paragraphe suivant. On notera aussi que tous meurent par nécessité. On est placé pour le savoir. Mais le Christ est mort par sa propre volonté. Vous voyez, c'est l'ultime passion. C'est-à-dire que, je vous ai dit, la passion volontaire, le Christ pâtit et il va subir tout ce qui est des autres, vont lui faire subir tout ce qui conduit à la mort. Et cependant, cette mort, c'est le Christ lui-même qui veut cette mort et qui va remettre lui-même son esprit. Voici comment Thomas le commence. Le Christ est mort par sa propre volonté. De là vient qu'il est dit, non pas il est mort, mais il a remis son esprit. Car cela vint de sa volonté, ce qui indique son pouvoir, comme il l'avait expliqué ailleurs. J'ai le pouvoir de déposer mon âme et j'ai le pouvoir de la reprendre. Il voulut mourir avec un grand cri pour bien montrer que cela venait de son pouvoir et qu'il n'était pas mort par nécessité. Ainsi a-t-il déposé son âme comme il l'a voulu et l'a-t-il reprise comme il l'a voulu.